Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, on poursuit donc notre édition spéciale américaine avec le débat des grandes voix, spécial US bien sûr. Bonsoir Claire Chartier.
Bonsoir.
Rédactrice en chef Idées et Débats à l'Express. Bonsoir Elsa Conessa.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef aux Échos, ancienne correspondante d'ailleurs aux États-Unis. Sylvain Sipel est également avec nous. Bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir.
Vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire Le 1 et spécialiste également des États-Unis. Avant de vous entendre les uns et les autres, je voudrais qu'on retrouve notre envoyé spécial sur place, Xavier Yvon, ancien correspondant qui suit ces élections depuis un certain temps. Xavier, ça y est, la cérémonie d'investiture vient de se terminer devant le Capitole. En présence, on les a aperçus les uns les autres, de trois anciens présidents. Hein.
Oui, c'est vrai. Là, en ce moment, Joe Biden est rentré dans le Capitole. On le voit monter des marches et le public est en train de sortir. Alors, il y a eu des consignes pour ne pas sortir tous en même temps, puisque vous l'avez compris, cette cérémonie est placée sous le signe de la pandémie, avec tout le monde masqué, distance des chaises réglementaires, et donc il faut sortir en bon ordre pour éviter les contaminations. La fin de cette cérémonie a été de la même tonalité que le début et que le discours de Joe Biden. C'est une cérémonie d'unité. On a vu un chanteur de country, une star de la country républicain affiché, qui est venu chanter le chant Amazing Grace pour l'investiture de Joe Biden, pour montrer que voilà, les Américains étaient à nouveau unis derrière un président. Alors il faudra voir ce que ça donne dans le temps, mais c'était vraiment la tonalité de cette cérémonie. Et voilà, Joe Biden qui est en train de rentrer à l'intérieur du Capitole, accompagné de sa femme Jill Biden.
Merci, on vous retrouve tout à l'heure évidemment, Xavier. C'est vrai que Joe Biden a joué l'unité dans ce discours à la nation, écoutez-le.
Je suis honoré de l'espoir que vous avez placé en moi. Mais à tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, laissez-moi vous dire ceci. Attendez un peu de voir ce que j'ai à cœur de faire. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord, alors soit. C'est la démocratie. C'est ça, l'Amérique. Le droit d'être pacifiquement en désaccord. Dans le respect de notre République, qui est peut-être la plus grande force de cette nation. Mais écoutez-moi bien. Ces désaccords ne doivent pas mener à la désunion. Je serai, et je vous le promets, le président de tous les Américains. Tous les Américains.
Voilà, c'est vraiment le message principal qu'il faut retenir de ce premier grand discours. Elsa Conessa, un message d'unité et de rassemblement après ces 4 ans de Donald Trump.
Oui, c'est un message qu'évidemment le pays a certainement besoin d'entendre. Après, enfin, il y a 4 ans, Donald Trump avait dit aussi qu'il serait le président de tous les Américains. Alors, il était peut-être moins convaincant quand il disait qu'il allait réunir les Américains.
Non, mais quand on pense qu'il y a quelques jours, ce même Capitole était pris d'assaut par les supporters de Donald Trump, ce discours revêt un caractère particulier.
Oui, certainement, mais enfin, il reste qu'un tiers des Américains pensent que l'élection a été volée, que Joe Biden n'a pas de légitimité, donc... Effectivement, il va falloir qu'il réunisse et qu'il déploie beaucoup d'efforts. Trump a dit qu'il allait réunir. En fait, il a gouverné que pour ses propres électeurs, en fait, pendant 4 ans.
Mais moi, ce que j'ai trouvé assez surprenant dans cette cérémonie d'investiture, c'est qu'on a vu aussi une autre Amérique. C'est le retour, d'une certaine manière, avec beaucoup de symboles d'ailleurs, d'une Amérique progressiste par opposition à l'Amérique conservatrice de Donald Trump. Un exemple, le choix par exemple de Lady Gaga pour interpréter l'hymne national. Ça peut paraître anodin, mais c'est un choix consensuel qui peut aussi plaire aux deux Amériques, les républicains comme les démocrates. Sylvain Sipel.
Elle est new-yorkaise, hein. New York,
enfin, elle vend 35 millions d'albums. Non, mais c'est pas Aretha Franklin, vous vous souvenez. Il avait choisi Aretha Franklin, Barack Obama.
Non, mais
c'est un choix beaucoup plus consensuel.
Évidemment. Chris Christie, qui a longtemps été gouverneur du New Jersey, c'était un grand fan, par exemple, de Bruce Springsteen.
Oui.
Alors il disait, on n'est pas du tout d'accord, parce que moi je suis ultra conservateur et que lui, c'est quasiment un gauchiste, mais sa musique, etc. Non, comment dire ? En France, c'est un discours systématique. Chaque président élu dit « je serai le président de tous les Français
oui. ».
Et il y a une forme, c'est conventionnel aussi aux États-Unis. Si
oui.
vous voulez. C'est un président élu dit « je serai votre président à tous, que vous ayez voté pour moi, que vous n'ayez pas voté pour moi ». Donc en soi, ça n'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, c'est la répétitivité de l'appel à l'unité. Moi, ce que je crois que ça dit, cette répétitivité, c'est combien ça va être compliqué et difficile. Il a fallu insister là-dessus parce que ce que vous avez dit, là, c'est-à-dire, hier encore, on a vu le visage de la division.
Oui.
Donc, il sait la profondeur de cette division, Biden, et son entourage le sait, le connaît. Et moi, ce que je... Trump a fait 75 millions de... Pas tout à fait de
un peu plus de 74 millions, oui.
comment dire, la moitié des gens qui ont voté pour lui, pour Trump, l'ont fait pas parce qu'ils aiment Trump, ils l'ont fait parce qu'ils étaient contre Biden. Comme des gens ont voté Biden parce qu'ils étaient contre Trump. Mais il y a une moitié qui était effectivement absolument convaincue par les opinions que professait.
Oui, il a un socle d'électeurs de 35 millions à peu près d'Américains. On va en reparler. Simplement sur cette cérémonie d'investiture, je voudrais également votre avis, Claire Chartier. Il y a des mots très forts qui ont été prononcés et puis des symboles. Joe Biden a par exemple fait observer une minute de silence pour les victimes du Covid. Une minute de silence, une minute de silence pendant une cérémonie d'investiture, je crois que c'est du jamais vu. Voilà, c'est un symbole fort. L'empathie et la compassion, c'est vraiment ça la grande force aussi de Joe Biden.
Absolument. Tout le ton, la rhétorique, effectivement, la récurrence de ce terme « unité », je pense que ça appuie aussi sur un point qui peut-être l'aider dans les années qui vont venir, dans son mandat, c'est que les Américains peuvent en avoir vraiment assez. De ces divisions incessantes, de parler de politique tout le temps, de s'étriper les uns les autres, et qu'il y a peut-être, je ne sais pas, mais disons qu'il faut espérer, certains l'espèrent, une soif d'apaisement, ce qui peut aussi expliquer que certains aient voté pour lui, parce qu'effectivement, il s'est toujours présenté comme celui qui allait réconcilier l'Amérique. Donc, c'est peut-être ça qu'il va aussi toucher dans cette forme de discours, en disant effectivement, en satisfaisant cette soif d'apaisement, alors qu'on est dans une situation aujourd'hui, et quand on regarde dans le détail, c'est vrai que c'est vraiment, comment dire, un pays traversé par une flambée de divisions qui paraissent assez insurmontables.
On se retrouve dans quelques secondes, 18h40, avec nos invités. On continue d'en parler, évidemment, et on sera sur place à Washington. À tout de suite. Two-step plan to build a bridge to the other side of the crisis we face to a better, stronger, more secure America. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et le monsieur que vous avez entendu parler, c'est Joe Biden, le 46e président des États-Unis. Il va falloir s'y faire désormais. La suite, évidemment, de notre édition spéciale avec le débat des grandes voix. Claire Chartier, toujours à mes côtés, rédactrice en chef Idées et Débats à l'Express. Elsa Conessa, rédactrice en chef aux Échos. Et Sylvain Sipel, journaliste pour l'hebdomadaire Le 1 et spécialiste, évidemment, des États-Unis. On parlait de ce discours d'investiture de Joe Biden, avec aussi des moments forts dans les propos qu'il a tenus, quand il dit par exemple, au-delà de l'unité qui est propre, c'est vrai, à chaque président élu, quand il dit « je vous promets de vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur et je demande à chaque Américain de me rejoindre dans cette cause ». Un plaidoyer aussi pour la vérité, quand il dit qu'il veut combattre les fake news. Sur ces différents points, je vous propose de l'écouter, le président américain.
Un cri pour la justice raciale, lancinant depuis 400 ans, nous émeut. Le rêve de justice pour tous ne sera pas repoussé un instant de plus. Ce cri pour la survie provient en fait de la planète tout entière, et il ne pourrait pas être plus désespéré ni plus clair qu'aujourd'hui. La montée de l'extrémisme politique, du suprémacisme blanc, du terrorisme intérieur doit être confrontée et nous la vaincrons.
Voilà, ça c'est vraiment une nouvelle donne, Elsa Conessa, qui n'existait pas, ou en tout cas on n'en parlait pas comme cela, évidemment il y a 4 ans, et qui plus est il y a 8 ans.
Oui, c'est certain. Puis c'est une réponse à Trump, hein, qui a toujours refusé de condamner, de dénoncer en tout cas le suprémacisme blanc et toutes les violences à l'égard de la communauté noire. Après.
Et puis qui a remis une pièce, si vous me permettez.
Oui, qui a remis une pièce.
Pièce avec Steve Bannon. C'est quand même. C'est quand même en le graciant. C'est quand même un signal envoyé à tout cet électorat quand on sait aussi le rôle qu'a eu Steve Bannon.
Sur le sujet des Noirs, c'était pas le pire. Hein, mais
je parle de l'assaut au Capitole. Oui. On sait qu'il fait partie d'un groupe qui a envoyé des dizaines
Steve
de milliers
Bannon,
de.
Il incarne le suprémacisme blanc.
Il incarne le suprémaciste blanc.
Non, j'étais sur le problème du racisme, effectivement.
Allez-y, les poursuivez.
Non, après, sur la question des Noirs et de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Peut-être qu'une première chose que ce pays pourrait faire, c'est condamner les policiers qui tuent gratuitement des Noirs. Parce qu'en fait, c'est tous les jours qu'il y en a. Enfin, moi, j'ai vécu là-bas 4 ans. Ce qu'on entend ici de ce qui se passe, c'est un cas sur 10, un cas sur 20. Et encore, parfois, ça provoque une flambée de violence parce qu'il y a des réactions, etc. Mais c'est quasiment quotidien, en fait, qu'il y a des types qui se font tuer dans leur jardin parce qu'ils ont levé le bras, le policier est passé, ils se sentaient menacés, et ils ne sont jamais condamnés, les policiers. Donc, c'est bien d'avoir un président qui dénonce le suprémacisme blanc, c'est très bien. Politiquement, c'est un symbole fort, mais dans les faits...
Le bénéfice du doute, il vient de commencer.
Oui, tout à fait. Mais ça c'est une constante dans la société américaine. Oui. Trump, Obama, c'est constante. C'est une réalité qui est pas, qu'on a tendance à sous-estimer quand on est en Europe, parce qu'on se dit qu'ils ont eu un président noir et que donc ce problème est réglé. Pas du tout. Pas du tout. C'est ce qu'on a vu avec les Black Lives Matter d'ailleurs.
Il y a une bataille qui va être aussi très importante, c'est que Joe Biden, il prend les commandes d'un pays dans la tempête. Et l'une de ses premières batailles, Sylvain Sipel, ça sera sans doute la lutte contre le Covid. Alors je le disais tout à l'heure, il a observé une minute de silence pendant sa prise de parole, il a honoré la mémoire des morts du Covid. Hier, à Washington, ça aussi c'est très symbolique, et il prévoit l'ouverture de milliers de centres de vaccination. Il vise, tenez-vous bien, 100 millions de doses injectées pendant ces premiers jours, ces 100 premiers jours. Là aussi, c'est un changement de paradigme assez notable.
Là, c'est plus qu'un changement de paradigme. Là, je pense, je ne dirais pas que le coronavirus a fait sa victoire, mais je pense que ça a contribué à sa victoire, partiellement. Je pense qu'il y a eu des républicains ou des gens, ce qu'on appelait les non-affiliés, si vous voulez, les non-partisans aux États-Unis, qui ont basculé sur la question du coronavirus et sur la manière de Trump de gérer, d'abord de nier la réalité de la pandémie, et puis de la manière de la gérer. Et effectivement, là, il parlait à ses propres électeurs, de la même façon que quand il a dit la fin du racisme, la fin du suprémacisme blanc, effectivement, il parle à son électorat. Ben, il lui doit quelque chose, donc il répond à son attente. Mais sur le coronavirus, on va voir ce qu'il va être capable de faire. Mais effectivement, il a un projet qui est radicalement contraire à ce qu'a fait Trump.
Et l'un des premiers décrets qui s'engage à faire passer là, dans les quelques heures qui viennent, puisque le nouveau Congrès va désormais se réunir, c'est le masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux et certains transports publics. Là aussi, c'est un changement par rapport à l'équipe Trump, dont on a vu d'ailleurs au moment du dernier discours, au pied de son avion, avant qu'il parte en Floride, une foule réunie, personne n'avait de masque.
Sans masque.
Claire Chartier.
Oui, là aussi, ça, on sait bien que ce masque et cette pandémie, elle a un aspect politique. Et donc, il y a un combat politique derrière. On le voit aussi en Europe. Il y a des gens qui manifestent contre le port du masque. Donc là aussi, il y a un message politique qui
Sauf
va...
Sauf que chez eux, c'est aussi un sacré problème de santé publique. Il y a 400 000 morts. Ils viennent de passer la barre des 400 000 morts.
Oui, donc, mais c'est aussi s'inscrire dans le réel par rapport à des opposants qui niaient la réalité, qui était celle du Covid. Donc c'est aussi, finalement, revenir sur un président qui veut s'inscrire dans la réalité, qui veut lutter contre les intoxications en provenance de tous les bords rivaux. Donc je pense que c'est aussi ça qu'il veut dire. Pour revenir juste un instant sur les mentions faites dans le discours, je pense qu'il pointait aussi les vraies difficultés. C'est-à-dire qu'il s'adressait à son électorat en parlant de suprémacisme, etc. Mais il pointait aussi, effectivement, les vraies difficultés internes de l'Amérique aujourd'hui, parce que ces suprémacistes blancs, ils ne viennent pas, ils ne sont pas nés d'aujourd'hui, simplement ils ont muté, ils ont évolué, et en plus ils se sont alliés avec les complotistes. Donc ça devient extrêmement difficile de lutter contre eux, avec en plus, comme on le sait, l'usage que font les complotistes des réseaux sociaux. Donc c'est un énorme défi.
Alors quelques secondes de pause, 18h47, et on retournera à Washington, car ça y est, le dernier garant de l'administration Trump vient de quitter à l'instant le Capitole, Mike Pence. A tout de suite. Now it's time
to turn the page. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h57, c'est la suite de notre édition spéciale américaine, évidemment, avec toujours le débat des grandes voix. Et on a vu et entendu il y a quelques instants Mike Pence, qui était le VP de Donald Trump, qui vient de quitter officiellement le Capitole dans son énorme cortège, dans ses gros véhicules protégés, évidemment, par ses gardes du corps. Ça y est, c'est donc la fin de l'administration Trump. Peut-être un mot d'ailleurs sur les républicains, Sylvain Sipel, j'en profite, hein, avec ces images de Mike Pence que je suis en même temps qu'on se parle dans le studio d'Europe Soir. Les républicains, hein, ça va être compliqué pour eux parce qu'ils sont plus divisés que jamais. On a vu que Donald Trump a été lâché après les incidents du Capitole par ses plus fidèles soutiens, Mike Pence notamment, qui a fait intervenir la garde nationale contre l'avis, paraît-il, de Donald Trump. Mais comment ils vont se positionner vis-à-vis du nouveau président, ces républicains?
On oublie qu'une partie des républicains, une partie importante des républicains, ne voulait pas de la candidature Trump. Et il s'est imposé, en utilisant la base républicaine, il s'est imposé au parti. Ça a été son exploit il y a 4 ans. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas faire de pronostic pour l'avenir, parce qu'en général, les pronostics sont toujours faux.
C'est vrai.
Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont un certain nombre de problèmes à régler et qu'il faut voir comment ils vont les régler. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils reviennent dans le giron? Est-ce qu'ils auront une politique vis-à-vis de Biden qui sera identique à celle qui a en fait amené Trump, qui était la politique qu'ils ont menée sous Obama, qui se caractérisait par un terme? C'était non. C'était non, oui. Non, non, oui. À toute proposition d'Obama. Est-ce qu'ils vont revenir à ça? Donc, ou est-ce qu'ils vont répondre, ne serait-ce qu'en partie, favorablement à Biden. Biden est relativement copain avec Mitch McConnell, qui est le chef des républicains au Sénat, qui est le principal républicain aujourd'hui.
Oui, qui était grand soutien de Donald Trump, qui a retourné sa veste d'une certaine manière.
Commencé comme soutien, mais qui a effectivement été un soutien important.
Alors, je vous pose la question, Claire Chartier, parce que aussi, vous êtes rédactrice en chef des débats à l'Express. Je vous pose la question parce que c'est vrai que les démocrates ont la majorité d'une voix, grâce à Kamala Harris, qui est VP, vice-présidente des États-Unis. Donc ça va être compliqué pour eux de gouverner. Il va falloir faire des compromis aussi.
Absolument. Et il va falloir faire des compromis non seulement avec le camp adverse républicain, qui est quand même, je le rappelle, il y a quand même chez les républicains, il y a 19%, ils sont seulement 19%, pardon, à reconnaître Biden comme président légitime. Chez les républicains, dans l'électorat républicain. Donc, ce qui pose quand même un problème globalement, parce que les élus sur le terrain, évidemment, ils tiennent compte de leurs électeurs. Donc il faut quand même, je pense, mesurer
mais
ce front-là.
Après, il y a quand même la réalité du Congrès.
Absolument, mais à l'intérieur, en plus, le problème de Biden, c'est qu'il a aussi sur son flanc gauche quand même des gens qui peuvent le pousser à une surenchère. Il a failli d'ailleurs ne pas obtenir la primaire à cause de ça, parce que les Bernie Sanders et autres poussaient pour des mesures beaucoup plus radicales. Donc, il a réussi à gagner la primaire sur un programme beaucoup plus modéré, mais évidemment, cette pression-là, elle existe encore. Il va falloir qu'il tienne compte de ça.
Mais quand on regarde son équipe, puisque ça y est, on la connaît, l'administration Biden, elle est constituée, on est plutôt centre-gauche, sont plutôt des modérés et des techniciens.
Il n'y a aucun représentant de ceux dont je vous parle, par exemple.
Absolument, c'est pour
aucun.
Ça que je vous dis ça.
Ouais,
Elsa connaît ça.
Oui, non, effectivement, je pense que c'est en plus la très courte majorité qu'il a au Congrès va lui compliquer les choses parce que sur beaucoup de sujets, il va falloir qu'il négocie avec cette gauche de la gauche et avec ces républicains qui eux-mêmes ne savent pas trop où ils sont parce qu'ils savent, en fait, le socle idéologique du Parti républicain, il a complètement volé en éclats sous Trump. Hein. Eux-mêmes ne savent pas s'ils sont toujours, pour le libre-échange, pour une forme d'orthodoxie budgétaire, pour l'immigration ou pas.
Oui.
Et tant que Trump va être dans le paysage, et il a dit qu'il serait, il a dit we'll be back, je crois, il me semble, hein, tout à l'heure. Donc, tant qu'il sera dans le paysage, ça va être très compliqué.
Nous
pour
reviendrons
eux.
Sous
nous
une reviendrons. Forme ou sous une autre.
Oui, c'est ça. On peut lui faire confiance. Donc ça va être très compliqué effectivement pour Biden de manœuvrer dans ce... Et le rôle de Kamala Harris effectivement va être central.
Et des sujets importants, il y en a, Sylvain Sipel, hein, journaliste pour l'hebdomadaire Le 1, il y a la relance économique parce que là c'est un gros enjeu pour le président Biden. Il a promis de mettre 1900 milliards, il faut imaginer ce que ça représente, sur la table, d'envoyer un chèque de 1 400 $ à peu près à tous les Américains, chaque foyer américain, et puis de doubler le salaire minimum. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de mesures sociales. Il va avoir besoin du soutien quand même du Congrès là-dessus.
Il va pas le doubler. L'une des clés, par exemple, ce sera de savoir est-ce qu'il va faire ce qui est demandé par la gauche démocrate, $15 de l'heure. Comme
c'est
base minimum.
Bah si c'est le cas, c'est le double. C'est 7,25 aujourd'hui.
Il s'est engagé à le faire.
Comment ?
Il s'est engagé à le faire, c'est son programme.
Il s'est engagé, c'est bien. Donc voilà. Donc ça, c'est est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va le faire rapidement ou pas ? Il va être dans la position dans laquelle sont tous les gouvernements, quels qu'ils soient aujourd'hui face à la pandémie. Donc, mais effectivement, je pense que c'est son enjeu primordial au-delà de la pandémie. C'est-à-dire que les États-Unis, comme nous tous, nous allons rentrer dans une période de difficultés économiques extraordinairement importantes. Et c'est évident que ce sera là-dessus que la population américaine ne va pas le juger sur le rapport à l'Iran ou est-ce que je sais. Non, ce sera là-dessus qu'il va juger le rétablissement
économique. Sur la relance économique.
Obama s'est fait réélire là-dessus.
Une petite question pour terminer à vous poser. Joe Biden, il dit tout le temps qu'il a des origines françaises. Et puis j'ai lu que ce n'était pas vraiment vrai. Est-ce
sa grand-mère.
C'est une histoire
c'est ça,
de cinéma,
ou...
ça ou... Sa grand-mère.
Aux États-Unis, tout le monde a des origines un peu de quelque part, globalement. Donc
on peut le croire.
Enfin, oui, c'est pas impossible, je veux dire, dans son pédigré, mais est-ce que pour autant il va accorder une place plus importante à la France, j'en doute.
On va enquêter. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix spéciales US de ce mercredi. On se retrouve dans quelques instants avec le journal et la suite de l'édition spéciale. À tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.